Cause à effet, le magazine de l'environnement.
À la veille des élections européennes et dans cette année qui a été rythmée par des actions citoyennes massives, révélant une inquiétude croissante face au réchauffement climatique et des attentes en matière de politique environnementale, il s'agit de décrypter le fonctionnement du monde politique, la parole verte que l'on retrouve dans la plupart des programmes et d'éclairer les citoyens sur les marges de manœuvre réelles des députés européens sur le plan écologique. Que peuvent les États et l'Europe pour l'environnement? À quelle échelle? Avec quels moyens? Face à quelles contraintes ou pressions? Quels sont les acteurs qui entrent en jeu? Qu'est-ce qui ressort d'un verdissage, comme on dit, du discours politique? Et qu'est-ce qui peut réellement être mené sur le terrain? Est-on face à un surf politique sur la vague de l'affaire du siècle ou à une transformation des priorités dans le monde politique en vue d'un bien commun? Réponse aujourd'hui avec nos invités. Valérie Cabanès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste international, auteur, je le rappelle, de Un nouveau droit pour la terre, un livre paru au Seuil, et puis on peut citer également Homo Natura, paru chez Buchet-Chastel, et vous êtes donc en duplex de nos studios de France Bleu à Périgueux. Ici en studio, Pierre Lascoum, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche honoraire CNRS, Centre d'études européennes à Sciences Po, et puis auteur notamment du livre Action publique et environnement, paru aux presses universitaires de France, dans la collection des Que sais-je. Et en face de vous, Naïl Makarov, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des politiques européennes pour le réseau Action Climat, et je précise que l'auteur et réalisateur Cyril Dion nous rejoindra tout à l'heure par téléphone depuis le festival de Cannes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission, toujours en partenariat bien sûr avec la rédaction des pages Planète Science du journal Le Monde, préparée avec soin par Anaï Morales, avec à nos côtés Anne Bouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang, réalisée l'émission par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui Morgane Danan.
La décision est tombée cet après-midi à Bruxelles. 5 ans de sursis pour le glyphosate, une surprise. À des centaines de kilomètres, ce scientifique apprend la nouvelle.
Oh, je trouve ça honteux, quoi.
Robert Bellet a passé des années à étudier les conséquences de ce pesticide utilisé en agriculture.
Moi, je sais que le glyphosate est cancérigène. Donc pour moi, le prolonger pour 5 ans l'autorisation de l'utiliser, ça va engendrer nécessairement un nombre de cancers. Difficile à évaluer, j'en conviens, mais en tout cas, ça va les engendrer.
Pourtant, 18 pays européens ont voté pour le glyphosate. Pas la France, contre, une fois de plus. C'est l'Allemagne qui a fait pencher la balance avec son poids démographique. Lors de la précédente consultation, elle s'était abstenue. Pour cet écologiste, tout s'explique par une raison économique.
Le retournement allemand est bien sûr lié aux intérêts industriels importants en Allemagne, parce que l'Allemagne c'est un grand pays pour l'industrie chimique.
L'entreprise Monsanto est connue pour son Roundup, conçu à partir du glyphosate. La bataille autour du glyphosate aura duré 2 ans et elle n'est sans doute pas terminée tant l'Europe reste divisée sur ce sujet.
C'était le 28 novembre 2017, l'annonce de l'autorisation donnée à nouveau au glyphosate en Europe pour 5 ans. Une décision, on peut dire, qui a suscité beaucoup d'incompréhension quand même. Alors à une semaine des élections européennes, alors que les discours des différents candidats se sont verdis, est-ce que l'Europe a l'image d'un leader crédible en matière d'environnement selon vous? Naïl Makarov.
Alors l'Europe est tout d'abord un échelon indispensable dans la lutte contre le réchauffement climatique, parce que chaque pas vers la transition écologique de l'Europe permet de faire bouger 500 millions d'Européens. Donc en Europe, on a une masse critique qui est essentielle. Par contre, c'est vrai que l'Europe ne fait pas suffisamment pour lutter contre le dérèglement climatique et pour enclencher cette transition écologique. Par exemple, il y a encore 112 milliards d'euros en Europe qui sont dépensés chaque année dans les énergies fossiles des États et de l'Union européenne, alors qu'on sait que ces énergies fossiles sont la cause du problème. Donc l'Europe n'est pas parfaite, néanmoins elle pousse quand même les États à faire plus. Dans la transition énergétique notamment. Par exemple, là, dans le mandat qui vient de s'écouler avec les députés européens qu'on connaît aujourd'hui, ont été adoptés des nouvelles normes et des nouveaux objectifs de transition énergétique, et notamment de développer plus les énergies renouvelables, ce qui va obliger un certain nombre d'États à faire beaucoup plus sur les énergies renouvelables, dont la France, qui est un peu le mauvais élève européen sur les énergies renouvelables.
Pierre Lascoum, donc ce thème, l'environnement, on le retrouve au cœur de la plupart des professions de foi des 34 listes. C'est le signe de quoi selon vous? Et est-ce que les électeurs, eux, ont ce sentiment que l'Europe peut être une locomotive?
Pour prolonger ce qui vient d'être dit, ce que je rajouterais simplement, c'est que l'Europe, depuis le début des années 70, était réellement un leader. Elle a pris énormément d'initiatives. Et s'il y a une grande partie des États européens ont des législations plus avancées que d'autres pays, c'est grâce à la Commission européenne et au fait qu'elle a réussi à convaincre le Conseil européen. Parce qu'il ne faut pas oublier, même si on parle aujourd'hui beaucoup du Parlement, que les instances décisionnelles sont d'abord, au point de vue proposition, la Commission et puis le Conseil où sont représentées les politiques. Pour répondre plus précisément à votre question, ce qu'on peut dire, enfin je ne sais pas ce que pensera mon interlocuteur, mais on considère, d'après ce que moi j'ai lu, ce qu'on peut voir, c'est que l'Europe, qui était très bien placée, a perdu, ne serait-ce qu'en matière de climat, son un peu un leadership mondial en matière de lutte contre le climat. L'Europe reste, au bout du compte, le troisième pollueur mondial. Quand on regarde les chiffres, même après la COP21, l'augmentation des émissions de CO2 n'a cessé d'augmenter, du moins en 2017, en 2018, etc. Donc, semble-t-il, on serait aujourd'hui vers un léger creux. Mais enfin, oui, il faut voir ça dans le temps. Donc, la tendance est quand même à une montée. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il y a une sorte de double discours entre ce qui est affiché et ce qui est réalisé. Et ce qu'on peut rajouter, peut-être on viendra dans le détail après, mais c'est que ce que je pense beaucoup de citoyens ont du mal à comprendre, c'est comment des normes, on peut dire progressistes, avancées, adoptées au niveau européen par des instances politiques, en fait, ne sont pas traduites ou sont traduites à minima au niveau de chaque pays. Parce que c'est ça, c'est la mise en œuvre des directives européennes qui concrétiserait les choses. Or, dans le sens de ce que vous avez dit, que ce soit sur... Vous avez dit que la France était un mauvais élève à juste titre. Elle a un niveau extrêmement faible dans la production d'énergie renouvelable. Et les grandes annonces qui ont été faites sur réduction autour de 30% de la consommation énergétique et de tout ce qui était l'isolement thermique et tout ça, la France n'a absolument pas progressé.
Non, et la France est également, on peut rajouter, mauvais élève en matière d'émissions de particules, en tout cas par rapport à la qualité aussi de l'air. Et donc reprise plus d'une fois, bien sûr, au niveau européen. Valérie Cabanès, on disait donc en début d'émission que finalement l'Europe et l'environnement, nous sommes à une semaine de ces élections. Les candidats, selon vous, surfent-ils sur une vague? On pense bien sûr à l'affaire du siècle, mais il y a ces élections européennes, on sent qu'il y a des enjeux majeurs, mais face à ces listes et à ces enjeux majeurs, les citoyens ont quand même tendance à être plutôt abstentionnistes, d'ailleurs, en matière de vote sur ce terrain-là. Alors, qu'est-ce que ça dit, tout ça? Et là, on voit qu'aujourd'hui, on est face à 34 listes.
Oui, c'est vrai que là, pour le coup, on a une élection européenne où, pour la première fois, l'écologie est finalement la ligne directrice de quasiment toutes les listes. Avec bien évidemment des petites différences ou alors des idées très novatrices qui commencent à apparaître et qui, comme vous le dites, sont mises en avant parce qu'elles répondent à une attente des citoyens, ce qui ne veut pas forcément dire que ces listes-là, si elles sont représentées au Parlement ou même en France, via les partis politiques qui les soutiennent, mettront en œuvre ce qu'elles disent. Alors, si je dois donner des exemples...
Oui, j'allais vous poser la question. Hein, quand vous dites des idées intéressantes...
Oui, alors dans les idées, pour moi, les plus innovantes, si vous voulez, c'est le fait qu'on retrouve des idées que je défends, que nous défendons à notre affaire à tous depuis plusieurs années, à savoir, par exemple, donc la reconnaissance du crime d'écocide que l'on avait proposé au niveau européen en 2013 à travers une initiative citoyenne européenne et qui, à l'époque, paraissait totalement étonnante aux politiques parce qu'ils ne savaient même pas ce que l'on voulait dire par le mot même écocide et que l'on retrouve aujourd'hui dans le programme d'Europe Écologie Les Verts, dans le projet de traité environnemental qui pose l'idée aussi d'avoir une cour européenne qui pourrait pénaliser le crime d'écocide, dans la liste Génération de Benoît Hamon qui fait beaucoup campagne autour de la notion d'écocide, dans la liste Génération Écologie de Dominique Bourg, portée par le parti de Delphine Bateau. La France Insoumise, bon, en parle depuis déjà la campagne présidentielle. Et puis, on voit apparaître donc des nouveaux concepts, comme les droits de la nature, par exemple, ou les limites planétaires, qui sont aussi des idées que nous portons depuis longtemps, mais qui sont très marginaux encore, et qu'on retrouve donc là aussi dans chez Génération Écologie, chez Europe Écologie Les Verts. Les limites planétaires sont posées aussi par la France insoumise. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que, un petit peu comme ça s'est passé il y a quelques semaines au Sénat français, quand il y a eu une proposition de loi sur le crime d'écocide portée par le groupe socialiste, c'est un effet d'annonce et une manière de se positionner aux côtés des citoyens et en particulier de ceux qui ont soutenu l'affaire du siècle pour s'opposer au gouvernement actuel? Ou est-ce que c'est profondément une conviction? L'avenir nous le dira, si je puis dire.
Alors justement, je vous propose d'écouter un document sonore. C'est l'extrait d'une vidéo produite donc sur le site du Sénat. On y entend notamment le sénateur Jérôme Durin qui explique la question, justement cette question de la proposition de la loi. Rappelons qu'elle a été proposée au Sénat le 2 mai dernier, donc portant reconnaissance d'écocide. Je rappelle que l'écocide, c'est cette atteinte à la sûreté de la planète, à la survie de ses écosystèmes, et donc crime aussi contre les générations futures. Écoutons-le et on revient justement avec vous pour voir de quelle façon est-ce que c'est ce genre de proposition qui serait plus facilement portée à l'échelle européenne qu'à l'échelle d'un État.
Pour certains, ce texte est trop précis. Pour d'autres, il est imprécis. Pour certains, il s'inscrit dans le droit national. Pour d'autres, il relève d'une démarche internationale. La réalité, c'est que les crimes contre l'environnement, les crimes les plus graves, ne sont aujourd'hui pas punis. Donc il faut mettre fin à l'impunité, il faut que ça entre dans le droit national, ça peut être le point de départ d'une démarche internationale. Il ne s'agit pas pour nous, Français, d'être le gendarme du monde en matière d'environnement. En revanche, nous assumons de porter une démarche qui est une démarche pionnière pour constituer un fondement dans le droit national qui puisse éventuellement s'élargir à d'autres territoires.
Valérie Cabanès, vous aviez été auditionnée, justement, pour pouvoir mieux préparer peut-être les sénateurs aussi sur ce texte-là. Votre sentiment à vous, quand il y a ces tentatives de faire passer des lois et de faire évoluer les règles en matière d'environnement, quel est votre sentiment? Quels freins ont pu jouer concrètement donc à l'échelle de la France?
Alors pour remettre dans le contexte, si vous voulez, c'est une proposition de loi sur le crime d'écocide, ça fait un an et demi que nous travaillons dessus. C'est par exemple Delphine Bateau au Parlement ou le député Colombani qui nous l'avait demandé, Fabien Gay au Sénat. Et on a été pris de court, on a été pris par surprise par cette proposition des socialistes. Et quand j'ai effectivement été auditionnée par le groupe, la proposition de loi avait déjà été déposée. Et elle comporte, de fait, pas mal d'imprécisions, parce qu'en droit pénal, on doit être précis, on doit être capable de qualifier le crime, donc il faut qu'il y ait des critères qui soient définis. Et puis, elle fait un petit peu des mélanges entre certains concepts, parce que, justement, les socialistes ne sont pas venus ni me voir, ni voir Laurent Néré, c'est-à-dire les deux personnes qui portent un petit peu ces idées-là en France. Et donc mélange mafia criminelle avec impunité des multinationales, expose dans les motifs des cas qui se passent à l'étranger, commis par des étrangers. Et tout ça a permis effectivement aux opposants à cette proposition de loi de dire la loi est mal écrite, nous ne sommes pas les gendarmes du monde, nous allons pas utiliser une compétence universelle, nous, en droit national, sur des cas étrangers.
Donc typiquement, manque de rigueur, manque d'information, manque de connaissance réelle du dossier. Et pression possible d'acteurs, parce qu'on va en parler aussi au niveau européen, justement.
Alors, si vous voulez, ce qui s'est passé, donc, c'est qu'effectivement, ça a ouvert la porte à une critique facile de la forme et non du fond. Et moi, ce qui m'a effectivement dérangé dans cette proposition, c'est que, et Jérôme Durin ne s'en est pas caché dans les médias, il a clairement dit que c'était un coup de communication et que c'était une manière d'amener le débat sur la table. J'aurais, de fait, préféré une vraie sincérité et un travail plus approfondi. Par contre, ce qui est intéressant pour faire le lien avec l'Europe, c'est que là où se sont fait un petit peu piéger les opposants, c'est qu'ils ont tous dit, que ce soit Brune Poirson, représentant le gouvernement, Marie Mercier, rapporteur des lois du parti des Républicains, oui, mais en fait, cette idée, elle est très bonne, mais elle doit être portée d'abord à l'international. Et là, je les prends vraiment au mot, c'est-à-dire que puisqu'ils considèrent que l'idée de reconnaître les crimes les plus graves contre l'environnement en temps de paix doit être inscrit dans le droit international, alors pourquoi pas la France devrait être à ce moment-là leader au niveau européen pour demander une directive sur le crime d'écocide et au niveau international pour demander l'amendement du statut de la Cour pénale internationale pour reconnaître un cinquième crime contre la paix et la sécurité humaine. Je les prends vraiment au mot parce que il y a une urgence. Voilà. Il y a une urgence sur ce sujet-là. On doit lever l'impunité des multinationales. Et on doit effectivement permettre aujourd'hui d'imposer des obligations à ces multinationales par un traité international, mais aussi par une responsabilité pénale de ces dirigeants si c'est nécessaire pour les cas les plus graves.
Pierre Lascoum, vous expliquez très bien dans vos livres que la décision politique est le produit d'une action collective, qu'il y a des acteurs intermédiaires, les conseillers, les experts, qu'il y a des activités politiques discrètes, bien sûr, les pressions, les lobbies, les consultations, les négociations. Vous parlez des intérêts dits concentrés, hein, c'est ça, économiques et financiers, et puis qui l'emportent sur les intérêts diffus, c'est-à-dire la consommation, la santé, l'environnement. Quelle est votre analyse par rapport à ça? Parce que ce qui est intéressant quand même, c'est... Les électeurs, dans une semaine, vont mettre un bulletin de vote. Ils ne savent pas forcément, notamment sur ce terrain de l'environnement, quelle est la marge de manœuvre de ceux pour lesquels ils votent, finalement.
Je voudrais juste dire une précision, revenir sur écocide. Bon, d'abord, ce que l'on doit constater, c'est qu'il y a de nouvelles formes d'action collective qui se développent. Et ce n'est pas que celles qui ont existé jusque-là, menées essentiellement par les ONG, n'aient pas abouti, mais elles ont atteint une certaine limite. On pourra éventuellement parler de ça plus tard. Ceci dit... Moi, ce que je regrette beaucoup, et ce que j'avais essayé d'écrire à plusieurs reprises, c'est qu'il y a une sorte d'enfermement thématique qui fait que les environnementalistes ne pensent qu'environnement. Ils regardent jamais ce qui se passe à côté. Je donne un seul exemple par rapport à écocide. Jacques Chirac, dans les derniers mois de son gouvernement, a fait adopter par rapport à la crise de toutes les personnes qui vivent sans domicile, etc., une loi sur le droit au logement opposable. Et il a... laisser la patate chaude au gouvernement suivant. Donc c'est un droit qui existe, qui permet à des personnes de se faire reconnaître, un, comme prioritaire, et quand elles sont reconnues comme prioritaires, l'État devrait leur fournir un logement. Comme il ne peut pas le faire, les tribunaux administratifs condamnent l'État à payer une somme, pas une amende, une somme forfaitaire, qui va approvisionner un fonds de construction des logements. Donc de son, au bout du compte, il n'y a aucune transformation qui se passe. Et avec une annonce de ce type, dont je comprends le fond, enfin l'esprit général, enfin, ça me semble n'avoir aucune possibilité de transformation des actions publiques. Parce que vouloir faire condamner les États, à plus forte raison, pénalement, pour des atteintes majeures à l'environnement, enfin, autant je comprends l'idée, autant je ne vois pas, parce que je suis aussi pénaliste, voilà, comment ça peut s'opérationnaliser. Alors maintenant, on peut dire aussi, il y a un effet de communication de la part de ces organisations qui sont toujours à la recherche d'idées nouvelles pour se faire reconnaître, pour faire valoir des points de vue. Mais enfin, en point de vue potentialité d'effectivité, je ne vois pas jusqu'où on peut aller.
C'est aussi peut-être aussi cette façon de faire entendre raison par rapport au temps. Il y a le temps politique, il y a le temps aussi de l'urgence climatique qui est aujourd'hui une réalité, on ne peut plus la remettre en question. Donc on peut imaginer que certains leviers, certains moyens aussi sont utilisés aujourd'hui pour accélérer la donne.
Oui, des moyens indirects. Oui,
Neil Makarov.
Oui, tout à fait. Je pense que le climat, c'est vraiment le sujet de cette élection. Tous les partis en parlent, du Rassemblement National jusqu'à la France Insoumise, avec plus ou moins de sincérité, plus ou moins de crédibilité. Et pour ça, on peut tester la crédibilité et la sincérité des partis politiques en regardant d'une part leur bilan. Et c'est ce qu'on a essayé de faire au sein du réseau Action Climat. On a publié un observatoire qu'on peut retrouver sur Internet. Un observatoire...
Et sur le site de notre émission d'ailleurs.
Et un observatoire sur l'action des députés européens français au Parlement européen sur les 10 grandes législations européennes qui ont touché le climat dans le mandat précédent. Donc ça va du traité de commerce du CETA à la protection des forêts, la transition énergétique, le marché carbone, enfin beaucoup de sujets. Et là-dessus, on s'aperçoit qu'une majorité des députés français au Parlement européen sont plutôt des freins à la transition écologique, votent plutôt à l'encontre de la transition écologique ou l'accélération de la transition écologique au Parlement européen que en faveur de son accélération. Et pourquoi ? Parce qu'on a deux groupes de parlementaires français au Parlement européen, les Républicains et le Rassemblement National, qui sont des grands groupes français au Parlement européen et qui aujourd'hui ont plutôt été des grands freins au Parlement européen pour faire avancer la cause du climat dans l'institution. Et c'est notamment le cas du Rassemblement National qui a absolument voté contre toutes les mesures de développement des énergies renouvelables, mais aussi des mesures d'efficacité énergétique comme la rénovation du bâtiment, qui était pourtant dans le programme de Marine Le Pen en 2017 lors de l'élection présidentielle. Il y a même des députés européens Rassemblement National qui ont nié la part de l'homme dans le dérèglement climatique au sein de l'hémicycle du Parlement européen. Donc on voit que tous les députés européens français ne sont pas des très bons élèves sur le climat. Ça, c'est une des façons de voir un peu la crédibilité des programmes aussi de ces partis, parce qu'ils parlent aujourd'hui du climat, ils parlent aujourd'hui de la transition écologique, mais ils n'ont pas été toujours très brillants dans le passé. L'autre façon, c'est aussi de regarder maintenant leurs programmes et leurs mesures. par exemple des mesures très consensuelles qui ressortent des différents programmes, comme une taxe verte aux frontières. Ça ressort quasiment dans tous les programmes, sauf le Rassemblement national. On pourrait dire que c'est une bonne idée sur le principe, néanmoins, ça serait encore une meilleure idée si l'Europe était exemplaire en matière de climat. Et il se trouve qu'elle ne l'est pas aujourd'hui. Si on faisait nos devoirs chez nous, si on était capable de réorienter l'industrie automobile, par exemple, vers des véhicules bas carbone, si on était capable de financer la sortie du charbon dans les pays d'Europe de l'Est, dans ce cas-là, une taxe aux frontières, ça aurait du sens. Il se trouve que c'est un peu une mesure facile à porter dans le débat public, mais qui en réalité n'est pas une mesure concrète et qui n'est pas un vrai chantier qui est aujourd'hui en débat au niveau européen. Donc c'est comme ça aussi qu'on peut tester un peu la crédibilité et la sincérité des programmes des partis politiques, car tout le monde parle de climat, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont réellement fait et qu'est-ce qu'ils vont réellement faire dans le prochain mandat ?
Et puis il y a un reproche souvent entendu aussi, une politique écologique qui va à l'encontre d'un État productiviste dont on sent qu'il y a des tensions, on sent qu'il y a ces fameux acteurs dont je parlais tout à l'heure. Je propose, avant de continuer sur ce thème-là, d'écouter ce document sonore, extrait d'un reportage diffusé sur France 2 le 28 août 2018.
Je suis le conseiller politique du monde de la chasse. Je connais parfaitement ce sujet. Je bâtis des stratégies, mais je le bâtis aussi pour d'autres personnes.
24 ans de lobbying à droite comme à gauche. Et depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, l'accès à la tête de l'État semble encore plus facile. Thierry Coste est par exemple l'artisan du retour des chasses présidentielles à Chambord. Son argument choc, la chasse, c'est plus d'un million d'adhérents, un électorat potentiel de 3 millions de personnes. Jusqu'où vont leurs méthodes ? Il y a 3 mois, cette députée Delphine Bateau les a subies. Elle voulait interdire le glyphosate. Elle rédige alors un amendement, mais avant même le débat, elle découvre qu'un lobby agricole, l'UIPP, s'est procuré son texte.
Qu'on se procure par derrière des amendements, qu'on envoie par derrière des mails pour dire « faites en sorte que vos députés votent contre », etc. Là, on est dans autre chose.
Intérêt privé, intérêt public, la frontière est de plus en plus poreuse. Certains lobbyistes sont devenus conseillers ministériels. Ils sont 43 dans ce cas sur 298. 1 sur 7, ce n'est plus une exception.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Valérie Cabanès, je me tourne vers vous, une réaction peut-être. On disait que, bien évidemment, il y a ces élus, mais qu'ils ne sont pas forcément, enfin maîtres, ils sont aussi sous pression, sous approche de différents acteurs et notamment les lobbies.
Oui, malheureusement, des témoignages comme celui de Delphine Bateau, j'en ai entendu souvent. Je me souviens Michel Rivasi, avec qui j'ai donné une conférence et qui expliquait aussi comment l'agence de sûreté, l'ANSES et les rapports de la Commission européenne avaient été complètement dévoyés, je dirais presque piratés par Monsanto pour pouvoir jouer sur les élections du glyphosate. On le sait, je veux dire, le poids des lobbies est énorme. Il y a un autre poids qui pour moi est important et qui va jouer après aussi sur la manière dont les entreprises elles-mêmes vont mener ce lobbying auprès des politiques, c'est le rôle des actionnaires. En fait, on a tendance à aller pointer du doigt la responsabilité des politiques, la responsabilité des citoyens, mais derrière, il y a tout un système et quand je parlais effectivement d'une responsabilité pénale, je pense d'une part aux dirigeants d'entreprise et donc aux actions aussi de lobbying qui devraient être, à mon avis, totalement interdites au sein des instances européennes. Et puis, d'autre part, à celles des actionnaires qui, en fait, donnent l'indication de la direction que va prendre stratégiquement et financièrement dans ses investissements une entreprise. Et j'ai discuté avec des entrepreneurs qui me disaient, si on avait une responsabilité définie qui pèse sur nos épaules, on pourrait s'opposer aux actionnaires en disant non, nous n'allons pas continuer à encourager une technologie qui est aujourd'hui dangereuse pour la biodiversité, pour le climat, pour l'humanité. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas ce moyen-là. Ils n'ont pas le moyen de s'opposer aux actionnaires. Et ça permet effectivement, là aussi, donc, à des entreprises de continuer, surtout des multinationales, de continuer à mener ce lobbying en faveur de leurs intérêts à court terme, de leurs intérêts financiers et à ne pas défendre l'intérêt général.
Pierre Lascoum.
Oui, peut-être deux choses. Là, d'abord sur la force des intérêts organisés. Il y a deux livres tout à fait passionnants qui sont, je pense, aujourd'hui un peu oubliés, mais que je conseille à tout le monde de lire. Deux ministres de l'Environnement, deux femmes courageuses, Madame Bouchardeau d'un côté, Madame Lepage de l'autre, ont toutes les deux écrit chacune un livre sur leur expérience de ministre. Et en gros, le leitmotiv de l'une comme de l'autre, c'est « Ah non, ce n'est pas possible, Madame la Ministre ». À l'époque, je crois qu'on disait même « Madame le Ministre ». Bon, passons. Et donc, ce qu'elle montre, c'est d'une part, évidemment, l'emprise des lobbies sur toutes les décisions au niveau ministériel, mais ce que l'on oublie toujours, là, on s'est beaucoup crispé ces dernières semaines sur la question de « Faut-il ou non supprimer l'ENA ?» Mais l'élite française, bien sûr, c'est l'ENA, mais c'est d'abord les grands corps d'ingénieurs dont on ne parle à peu près jamais. Les polytechniciens, les centraliens, etc., qui sont encore plus nombreux dans l'administration que les énarques.
Donc, ils sont à la manœuvre.
Et qui sont à la manœuvre. Et qui sont les principaux relais des groupes d'intérêt, ne serait-ce que par rapport à, éventuellement, leur carrière future. Et la deuxième chose, par rapport à ce que nous disait la dernière interlocutrice, c'est que l'idée d'interdire les groupes d'intérêt, au niveau, que ce soit auprès des parlements, européens ou nationaux, bon, enfin, je veux dire, ça aussi, c'est une mesure facile, qui plaît à l'opinion, etc. C'est une mesure qui est, me semble, tout à fait factice. Regardons les Suisses. Ils ont, je veux dire, anticipé dans leur système démocratique l'existence, il y a des pluralités, des conflits d'intérêts. Un gouvernement ne peut pas débarquer au Parlement avec un projet de loi à toute vitesse, fabriqué on ne sait comment, sur voilà. Donc, le gouvernement doit toujours faire un avant-projet qui est rendu public, sur lequel il y a une consultation. Et deuxièmement, encore plus exigeant, le gouvernement doit répondre aux objections et dire pourquoi il choisit telle formule plutôt que telle autre. Donc, personnellement, en tant que procédure législative, quels que soient les domaines, moi je soutiens fortement ces, disons, des procédures dans lesquelles la diversité des intérêts doivent être explicités.
Neil Makarov.
Ce qui est très intéressant, si on fait la différence entre le niveau européen et le niveau français, c'est qu'au niveau européen, il y a un registre de transparence. C'est-à-dire que tous les ce qu'on appelle les lobbyistes, les entreprises comme les ONG d'ailleurs, sont inscrites sur ce registre de transparence. Donc si vous tapez mon nom Neil Makarov sur le registre de transparence, vous allez me trouver, vous allez trouver mon organisation. Donc là-dessus, c'est beaucoup plus transparent au niveau européen qu'au niveau français. Néanmoins, ça ne veut pas dire que le rapport de force est équilibré. C'est-à-dire que les ONG, si vous tapez encore une fois le réseau Action Climat, vous trouverez deux personnes inscrites sur le registre de transparence européen. Si vous tapez Volkswagen, vous trouverez 40 personnes inscrites sur le registre de transparence. Donc vous voyez qu'il y a une vraie différence en termes d'équilibre des poids et des forces au niveau européen. C'est-à-dire qu'il y a des grands groupes qui en effet investissent énormément pour faire du lobby au niveau européen. Et face à eux, les ONG qui représentent l'intérêt général, les organisations de la société civile sont beaucoup plus faibles. Et c'est pour ça que la mobilisation des citoyens sur le climat, la mobilisation des jeunes qui font grève est si importante parce que politiquement ça permet de rééquilibrer justement ce rapport de force avec les grands groupes, ça permet de montrer que le climat c'est quelque chose de sérieux et qu'en fait ce n'est pas juste un petit verdissement d'un programme politique mais que les citoyens attendent des actions sur le climat. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant parce que cette mobilisation, elle est quand même en train de changer les lignes politiques. Aujourd'hui, tout le monde parle du climat dans la campagne des élections européennes. Et vraiment, cette mobilisation, c'est un peu les jambes des organisations de la société civile qui permettent du coup de contrebalancer les grands groupes. Et c'est pour ça que cette mobilisation, elle doit aussi aboutir dans le cadre de l'élection européenne parce qu'on a beaucoup marché pour le climat, on a beaucoup signé de pétitions pour le climat. Maintenant, il faut aussi aller voter parce que quand on va voter pour des élus, on vote aussi pour le climat, pour la planète, d'autant plus au niveau européen où il y a une vraie conséquences après des politiques européennes sur l'environnement et sur le climat.
Mais les jeunes vont-ils aller voter? C'est moins sûr. Hein. On attend toujours un taux d'abstention important dans ces jeunes générations, avec toujours cette question qui revient et qui est aussi le but de cette émission, c'est de donner au moins des éclairages. Comment repérer ce qui peut ressortir de choix électoralistes et ce qui ressort de volonté forte dans ces listes-là? Donc vous disiez, finalement, déjà le trombinoscope ou le travail que vous avez fait, mais ce n'est pas si évident, et même pour des adultes. Hein. Voilà, j'allais dire sans jugement politique, sans donner de nom en particulier, bien sûr, dans vos réponses.
Non, tout à fait. Si on regarde un petit peu le programme des partis politiques, on s'aperçoit que la plupart des listes proposent d'investir beaucoup plus dans la transition écologique. C'est une bonne chose, ça veut dire qu'ils ont pris en compte le fait qu'on doit mettre beaucoup d'argent dans cette transition et qu'elle est nécessaire. Il y a des modalités qui changent, bien entendu, mais beaucoup oublient certains chantiers européens qui sont essentiels, qui sont peut-être un peu moins, attrayants d'un point de vue public, d'un point de vue politique, mais qui sont pourtant essentiels et qui sont aujourd'hui sur la table. Par exemple, au niveau européen, on est en train de négocier le futur budget européen. C'est 1200 milliards d'euros entre 2021 et 2027. Et ce budget européen, il est conséquent. Il peut représenter 80% de l'investissement public, par exemple, dans l'infrastructure en Pologne. Donc, si on réoriente ce budget européen vers des solutions bas carbone, vers des solutions de transition écologique, alors on peut aider ces pays-là, qui aujourd'hui sont très dépendants, notamment de l'industrie du charbon, à effectuer cette transition, à reconvertir les travailleurs, notamment des régions les plus charbonnières, à pouvoir trouver des métiers d'avenir, à pouvoir aussi aider ces régions à créer de nouvelles activités d'avenir de la transition. Donc ça, c'est typiquement un des chantiers concrets qui aura un impact après les élections européennes, et les députés européens qu'on va élire le 26 mai prochain vont devoir dire leur mot là-dessus. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'aller voter, parce que concrètement, ces 1200 milliards d'euros, il faut les mettre vers la transition écologique.
Alors, c'est le moment d'écouter votre choix musical, Pierre Lascoum. Vous avez choisi Hurricane Season de Trombone Shorty. Il y a une raison particulière ?
Oui, puisque donc le terme hurricane, donc c'est ouragan, et c'est un morceau de jazz que ce groupe a écrit juste après le cataclysme de Katrina.
L'ouragan Katrina, en Nouvelle-Orléans.
En Nouvelle-Orléans.
De cause à effet, c'est la suite de notre émission sur France Culture, consacrée aujourd'hui à l'Europe et l'environnement, aux politiques publiques et à ce qui entre en jeu dans les prises de décision de nos élus. Nous sommes avec la juriste internationale Valérie Cabanès, avec Pierre Lascoum, directeur de recherche honoraire au CNRS, au Centre d'études européennes à Sciences Po, et Neil Makarov, qui est responsable Europe du réseau Action Climat. Mais tout de suite, notre revue d'infos environnement. Et une fois n'est pas coutume, nous partons en extérieur. On vous emmène sur la Croisette à Cannes, rejoindre un acteur de cette transition écologique. Mais écoutez tout d'abord ce document sonore, la réaction d'Emmanuel Macron à la plainte de plusieurs ONG devant le tribunal administratif de Paris pour dénoncer l'inaction de l'État français. C'était le 14 mars 2019, depuis Nairobi, où se tenait le One Planet Summit.
Moi, je pense que ça traduit une mobilisation. Je pense sincèrement que cette plainte, j'en vois pas les tenants et les aboutissants. D'ailleurs, je pense qu'elle ne mènera pas, je pense, à un débouché judiciaire. C'est pas là que ça se joue, d'ailleurs. Moi, j'achète pas cet esprit, si je puis dire. La solution, elle est en nous tous, hein. C'est pas le peuple contre le gouvernement sur ces sujets-là. Faut arrêter ces bêtises, hein. C'est nous tous. Les gouvernements doivent bouger. Les grandes entreprises doivent bouger. Les investisseurs doivent bouger. Les citoyens doivent bouger. C'est tout le monde ensemble. Donc moi je dis simplement, la jeunesse qui se mobilise ces jours-ci, elle a raison parce qu'elle nous pousse à aller plus loin. Et moi j'ai besoin de cette mobilisation. Tous ceux qui disent, proposer d'avoir des solutions plus décentralisées, d'aller plus vite, de mobiliser plus de financement privé, de bousculer des intérêts acquis, je les suivrai, sans tabou. Quand c'est bon pour la réduction de nos émissions de CO2 et la biodiversité. Après, les postures, elles ne m'intéressent pas.
Bonjour Cyril Dion.
Bonjour.
Vous êtes auteur et l'un des réalisateurs de films sur l'environnement certainement les plus sollicités. Merci d'être avec nous dans votre agenda riche à Cannes, on l'imagine. Vous venez d'entendre ces propos d'Emmanuel Macron qui datent du 14 mars dernier. Emmanuel Macron qui goûtait peu les actions en justice mais qui saluait à ce moment-là le mouvement citoyen, celui des jeunes en particulier. Il a depuis annoncé lors d'une conférence de presse le 25 avril son souhait de créer une convention de 150 citoyens tirés au sort avec pour mission de travailler sur des mesures significatives pour la planète. Et à ce niveau-là, depuis le 25 avril, quelles sont les nouvelles ?
Mais les nouvelles, c'est qu'on a rencontré plusieurs fois des membres du ministère de la Transition écologique, dont François de Rugy. Voilà. Donc on est en train de négocier avec Emmanuel Macron et le gouvernement pour pour faire en sorte que ce projet soit le plus ambitieux possible.
Et donc avec le collectif Gilets Citoyens, vous l'interpellez hein, sur les conditions méthodologiques indispensables. Hein, et finalement, est-ce qu'on peut s'inspirer de ce qui s'est passé à la CNDP, par exemple, où il y avait à un moment 400 citoyens tirés au sort hein, pour donner leurs sentiments?
Oui, on peut s'inspirer de ça. On peut surtout s'inspirer de ce qui s'est fait dans d'autres pays avec les mêmes mécanismes de citoyens tirés au sort qui ont travaillé avec la démocratie délibérative, notamment ce qui s'est passé en Irlande où 8 articles de la Constitution ont été revisités par cette convention citoyenne. 2 ont été modifiés. Parce que sur le mariage pour tous et sur le droit à l'avortement, les citoyens tirés au sort ont fait une recommandation au gouvernement qui était de changer la constitution pour les autoriser. Le gouvernement a joué le jeu, fait un référendum, et les 2 mesures sont passées dans un climat plutôt calme dans la société. Donc là, on voit bien qu'en fait, c'est très utile sur des sujets sur lesquels on a besoin de créer du consensus plus largement. Et puis l'exemple du Texas, où le Texas est aujourd'hui l'État américain où il y a le plus d'éoliennes, alors que c'est l'État pétrolier par excellence, et on est arrivé à ce résultat de la même façon, grâce à un processus de démocratie délibérative, avec des citoyens tirés au sort. Donc on voudrait s'inspirer de ça pour répondre à la question qui est un peu la grande question, comment on fait pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50% d'ici 2030.
Mais au-delà justement de ces 150 citoyens tirés au sort, donc de cette convention citoyenne, qu'est-ce qui a été imaginé? Parce qu'il faut quand même que ce soit dans un cadre particulier, que ce soit encadré, qu'il y ait aussi des conseillers, des modérateurs, et idéalement avec suffisamment de spécialistes et d'acteurs de l'environnement reconnus.
Oui, tout ça est prévu en fait dans ces modalités. Ça s'est passé aussi de la même façon en Irlande, c'est-à-dire que les citoyens sont tirés au sort, un peu sur le modèle d'un jury d'assises. Et comme pour un jury d'assises, on va leur donner tous les éléments qui permettent de prendre les décisions de la meilleure façon qui soit. Donc ils vont être formés par des experts qui vont leur donner tous les tenants et les aboutissants sur la question du changement climatique, des émissions de CO2 en France, où sont les leviers, où sont les blocages, quelles sont les stratégies qui semblent être les plus efficaces. Ils vont aussi être accompagnés par des juristes qui vont les aider à formuler ensuite leurs propositions sous une forme qui pourrait être acceptée sur le plan législatif. Et puis, on va avoir un processus de médiatisation de tout ça, puisque l'idée, c'est pas uniquement que ces 150 citoyens délibèrent, c'est que ça crée une conversation dans l'ensemble de la société française. Donc, on va à la fois avoir des lives sur Internet, mais aussi des émissions à la télévision, pour que tout le monde se saisisse de ce sujet, que ça crée des conversations dans les familles, dans les entreprises, et que au moment où les propositions pourraient être soumises au référendum, ce débat ait eu lieu dans la société. Que ça soit pas un référendum à blanc avec une question oui-non, mais que ce soit plutôt un référendum à choix multiples sur les différentes propositions qui vont être faites et qui sera nourri de toute cette conversation, de toute cette réflexion, de tous ces débats qui auront eu lieu dans les médias, dans les familles, dans les entreprises pendant tout ce temps-là.
Donc c'est la raison pour laquelle hein, cette semaine vous avez, je dis vous, c'est-à-dire vous, Laurence Toubiana, Maxime de Rostolan, Carole Delga, et Marion Cotillard, Priscilla Ludowski, etc. Vous avez redonné un peu de la voix pour relancer peut-être potentiellement cette initiative.
En fait elle est vraiment sur les rails, c'est-à-dire qu'on est en conversation permanente là avec l'exécutif, mais on voulait à nouveau préciser les conditions qui permettraient que ça fonctionne. La médiatisation, c'est une condition sine qua non pour nous, parce que le but, c'est de créer de l'adhésion dans l'ensemble de la société. On a besoin, ensemble, de pouvoir trouver des solutions. Aujourd'hui, si vous dites à la majeure partie des Français, il va falloir réduire de 50% le nombre de voitures en circulation, tout le monde ne va pas être d'accord. Sauf si on trouve des solutions de remplacement qui sont vraiment efficaces. Si vous dites à la majeure partie des Français, il faudrait arrêter de prendre l'avion en France, et il faudrait peut-être même arrêter de le prendre, sauf si on est vraiment obligé en Europe. De la même façon, tout le monde ne va pas être d'accord. Si vous dites aux chauffeurs routiers, si vous dites à tous les gens qui dépendent aujourd'hui de l'industrie des énergies fossiles, dans les 10 ans qui viennent, on va complètement transformer notre économie. Là aussi, on voit qu'il y a des résistances très importantes qui s'élèvent. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de trouver des solutions qui sont bien organisées, qui correspondent aux besoins et aux conditions de la majeure partie des Français. Et pour le faire, l'expérience nous montre que des citoyens tirés au sort, qui sont représentatifs justement de la population française, vont beaucoup plus loin que des élus. C'est encore une fois ce qui s'est passé au Texas, où si on s'était simplement appuyé sur les élus de l'État du Texas, jamais on serait arrivé à ce résultat de développement des énergies renouvelables, puisqu'ils sont soumis au lobby et aux contraintes électoralistes de nos responsables politiques.
Autre actualité pour vous, Cyril Dion, c'est votre tribune avec On est prêt, résister et créer. Alors de quoi s'agit-il ?
En fait, on a lancé un appel au Festival de Cannes avec un certain nombre de jeunes qui sont mobilisés, notamment dans Youth for Climate en France et en Belgique. On l'a fait un vendredi, donc un jour de grève pour le climat des jeunes, pour rappeler les réalisateurs, les acteurs, les scénaristes, tous les raconteurs d'histoire à s'engager dans cette question. Pour moi, on ne parviendra pas à transformer la société si on n'est pas capable d'imaginer à quoi elle pourrait ressembler. Et cet imaginaire, il est extraordinairement nourri par les histoires. Et aujourd'hui, dans notre société qui est dominée par les images, par les films. Donc on a appelé tous ces professionnels du cinéma à nous raconter des histoires qui nous permettraient d'imaginer un monde futur, libéré des énergies fossiles, avec plus d'équité sociale, et qui soit autre chose que les dystopies qu'on a l'habitude de voir au cinéma, qui nous brossent toujours un futur apocalyptique.
Et donc là aussi, beaucoup de soutien, hein, plus de 200 personnalités, acteurs, réalisateurs, producteurs, scénaristes, qui lancent cet appel aux professionnels du cinéma, et donc à vos côtés.
Oui, on est très touchés de voir que de plus en plus de personnes dans le milieu du cinéma ont pleinement conscience de ce qui se produit et ont pleinement conscience qu'ils peuvent avoir non seulement une responsabilité, mais un vrai pouvoir pour aider à changer les choses.
Et donc soutenir les jeunes engagés dans la défense de la planète, la protection du vivant, par le biais donc de l'écriture, comme vous dites, de la création, pour aboutir à ces films, à ce monde du cinéma finalement qui engage aussi ses armes et qui peut être un véritable soutien pour faire passer la nécessité, hein, c'est ça, les solutions pour demain.
Ces jeunes nous disent, c'est notre avenir qui se joue. Si, comme un certain nombre de scientifiques nous le disent, on rentre dans des phénomènes de basculement dans les 10 ou 15 ans qui viennent, on va tous les vivre. Moi, j'ai 40 ans, je vais les vivre, mais eux qui ont 15 ou 20 ans, ils vont les vivre de plein de fouet. Et donc, ils ont le sentiment que leur futur est vraiment condamné, ou en tout cas, qu'il est malheureusement un peu assombri. Donc, ces professionnels du cinéma, qui eux-mêmes ont la capacité d'imaginer le futur et peut-être d'influencer le futur, on a vu dans le passé, par exemple, une série qui s'appelait 24 heures qui mettait en scène un président noir. Et il y a eu un certain nombre d'études d'opinion qui ont montré que l'élection de Barack Obama avait été facilitée notamment par ça, parce que les gens s'étaient habitués à voir un président noir à la télé. Ils disent, bah oui, ok, un président noir, c'est comme dans la série qu'on regarde tous les soirs, pourquoi pas? Mais de la même façon, aujourd'hui, on a besoin qu'il y ait des films, qu'il y ait des séries, qu'il y ait des romans, qu'il y ait des émissions à la télévision, qui nous libèrent de cet imaginaire consumériste qui est totalement écrasant. On a l'impression qu'il n'y a que cette réalité-là qui existe.
Et on peut peut-être signaler, hein, avant de vous laisser savourer le Festival de Cannes et la Croisette, Cyril Dion, on peut peut-être préciser qu'il y a un concours, hein, je crois, de synopsis et de court-métrages intitulé « La vie rêvée » avec le Festival Atmosphère.
Exactement. Festival qui est, depuis plusieurs années, spécialisé dans ces films justement qui nous racontent le monde de demain ou qui nous aident à décrypter le monde d'aujourd'hui pour pouvoir agir.
Merci Cyril Dion, merci à vous. Bon festival. Et je rappelle le titre de votre dernier livre, un petit manuel de résistance contemporaine paru chez Actes Sud. À bientôt.
À bientôt.
Et j'en profite aussi pour vous conseiller un très beau film en ce moment au cinéma, Le Chant de la Forêt, de João Salavisa et René Nader Messora. Une immersion au cœur de la tribu indienne Crao, dans le village de Pedra Branca, situé à 1000 km au nord de Brasilia. Donc vous l'aurez compris, c'est au Brésil. Un film superbe qui, au-delà de la force des images et de la narration, bien nous interpelle aussi sur notre rythme de vie dans nos civilisations industrielles galopantes. Nous avons perdu la patience du monde, c'est le message de cette tribu indienne et nous aurons l'occasion de reparler du film et de ce Brésil actuel la semaine prochaine avec nos camarades du journal Le Monde.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Et nous repartons dans le débat qui nous intéresse, qui nous occupe depuis le début de l'émission. Mais peut-être une réaction, ou les uns les autres peut-être, à ce que vient de dire Cyril Dion, Valérie Cabanès.
Oui, il est clair que pour moi, la démocratie ne fonctionne pas bien, ni en Europe, ni sur le sol français. On est amené en fait à voter pour quelqu'un tous les 5 ans, et parce qu'on ne fonctionne pas du tout comme la Suisse, on n'est pas en capacité pendant ces 5 années-là de donner notre avis sur les propositions de loi, par exemple, qui sont faites, ou d'interpeller quand on voit que les personnes que l'on a choisies ne respectent pas leurs engagements, de la même manière qu'au niveau européen, cet outil du traité de Lisbonne qui permettait cette initiative citoyenne européenne, outil de démocratie participative et directe, qui permettait de proposer des directives européennes directement des citoyens, ne fonctionne pas non plus. Et donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, au poids des lobbies par rapport, je dirais, au lobby citoyen, si je puis dire, il y a de fait un écart énorme. Et donc, ce que propose Emmanuel Macron avec cette assemblée citoyenne est en soi très intéressant. Moi, je soutiens complètement ce projet de démocratie délibérative. Maintenant, voilà, une fois de plus, c'est tout le sujet de l'émission d'aujourd'hui, c'est est-ce que ça va être respecté? Je vous donne un exemple très concret et qui est aussi une illustration du fait que les citoyens sont capables parfois de proposer des choses beaucoup plus ambitieuses que les politiques, ce que disait Cyril tout à l'heure. C'est le cas du lac Érié, 11e lac le plus grand du monde, où une municipalité, la municipalité de Toledo aux États-Unis, a voté une charte qui reconnaît des droits au lac Érié, c'est-à-dire la possibilité d'être représenté en justice et donc de défendre ses intérêts à être non pollué en justice. C'est une possibilité qui est donnée effectivement aux États-Unis, aux municipalités, d'écrire leur législation, ce qu'on ne peut pas faire en France. Cela étant dit, la Chambre des représentants, voyant la menace que cela pouvait constituer face aux intérêts agricoles, industriels, a voté une loi il y a quelques jours, dans le cadre du vote de son budget sur les trois prochaines années, en disant « Non, nous ne tolérerons pas que des éléments de la nature puissent être représentés en justice, devenir des sujets de droit. Et d'ailleurs, nous allons définir ce qu'est la nature. La nature, c'est tout ce qui n'est pas touché par l'homme. » Alors, quand je pense à Descola qui nous explique que il n'y a pas quasiment d'espace sur Terre qui n'a pas, à un moment donné, été habité ou humanisé, ça veut dire qu'il n'y a plus de nature. Donc là, on est vraiment face à des contextes extrêmement frustrants où même quand la volonté citoyenne a le droit de s'exprimer et s'exprime, même par référendum, ce qui a été le cas de la ville de Toledo, des politiques continuent à défendre des intérêts industriels, quoi qu'il en coûte. D'où l'importance de la pression citoyenne et d'où l'importance aussi, de temps en temps, être en capacité de rappeler à l'ordre nos gouvernements ou même le Conseil de l'Europe, ce qui a été le cas, effectivement, des recours citoyens qui ont été menés par notre affaire à tous contre le gouvernement français et l'appui qui a été apporté à des recours citoyens en Europe de 10 familles, en partenariat d'ailleurs avec le réseau Action Climat.
Qui veut réagir d'abord? Naïl Makarov, allez.
Non, en effet, la mobilisation citoyenne, et je vais abonder dans ce sens-là, elle est nécessaire vraiment pour équilibrer justement ce rapport de force, parce qu'on sait que au niveau européen comme au niveau national, malheureusement, les hommes et femmes politiques répondent souvent beaucoup plus à des intérêts industriels, à la question de l'emploi. Et par exemple, je vais vous donner un exemple très précis. Dans le mandat précédent, on a négocié des nouvelles normes de CO2 pour les véhicules, pour les voitures. C'est-à-dire que cette législation européenne visait à contraindre les constructeurs automobiles européens, enfin basés en Europe, de réduire leurs émissions de CO2 de leurs véhicules, c'est-à-dire de faire des véhicules moins polluants. Les ONG, on s'est vraiment battu pour essayer de faire en sorte que l'industrie européenne de l'automobile vraiment s'engage dans la transition industrielle, puisse baisser les normes de CO2, puisse développer des véhicules à faible émission, puisse vraiment faire ce virage-là qui n'avait pas été fait ces derniers temps, alors même qu'on sait que de l'autre côté, en Chine notamment, les Chinois aujourd'hui sont en train d'investir massivement dans ces véhicules, et d'ailleurs les constructeurs automobiles européens investissent aujourd'hui 7 fois plus en Chine qu'en Europe dans le véhicule à faible émission. Pourquoi? Parce que la Chine a des normes très élevées de lutte contre la pollution de l'air. Donc on voit qu'avec une régulation très forte, on peut changer le comportement des industriels. Malheureusement, dans les négociations, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les industriels de l'automobile ont mis tout leur poids et notamment ont fait beaucoup de chantage à l'emploi en disant « si vous développez des normes de CO2 trop élevées, on va devoir licencier à tour de bras partout en Europe dans l'industrie automobile ». Et à cela, forcément, les hommes et femmes politiques ont répondu qu'il fallait avoir des normes beaucoup plus modérées.
Parce qu'une économie verte n'existe pas pour eux, c'est ça?
Parce qu'une économie verte n'existe pas pour eux et que par ailleurs, ils voulaient continuer, comme on dit en très bon français, business as usual, on continue comme si de rien n'était.
Alors sauf peut-être, on peut mentionner Volkswagen, je crois, en Allemagne, hein, qui a complètement changé sa stratégie et qui passe aux véhicules électriques rapidement là.
Par nécessité.
Par nécessité, Pierre Lascoum.
Les Allemands, qui sont toujours considérés comme les premiers de classe en matière de probité publique, d'environnement, etc., jusqu'au moment où on découvre qu'ils sont aussi tricheurs que les autres, pas forcément plus.
Ce que vous expliquez dans vos livres, c'est effectivement que souvent des scandales ou des catastrophes ont fait avancer, bien sûr, les politiques environnementales.
Absolument. On peut dire que les politiques publiques avancent à la crise. Alors, je veux dire deux choses quand même. Parce que je voudrais revenir aux partis, puisque c'était là où nous en étions.
Oui, on en était à la crédibilité des partis, c'est ça.
Voilà. Hein. Enfin, je dis quand même quelque chose avant sur le, disons, ces annonces, conventions citoyennes, etc., le conseil de défense annoncé. Alors, d'abord, je rappelle, hein, j'ai un petit peu de mémoire, qu'il y a eu un événement extrêmement important à propos des organismes génétiquement modifiés, où le Parlement français a organisé une grande conférence de citoyens. Donc, je pense que beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui sont ignorants de toutes ces démarches qui sont testées, surtout en Europe du Nord, sur beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de, disons, de savoir-faire et de connaissances. On découvre pas l'eau tiède.
Oui, ce que vous dites, c'est que ça existe ou ça a déjà existé.
Voilà,
ou ça a été expérimenté,
et on peut en faire le bilan. Hein. Mmh. La deuxième chose que je rajouterais, c'est que, alors, puisque on a parlé aussi du grand débat, voilà, c'est un peu la suite, c'est que ce que l'on sait, c'est que les politiques en général, la technocratie en particulier, quelles que soient les orientations politiques, détestent la méthode. Donc de toute façon, ça marche à l'intuition. Et moi, je vis dans un milieu où toutes les personnes qui travaillent sur les actions de participation, la délibération, j'ai fait avec des collègues, il s'appelle « Agir dans un monde incertain ». Mais oui, mais évidemment, il y a presque 15 ans, vous vous rendez compte, c'est juste au Moyen-Âge. Donc tout ce qui s'est passé là, personne n'a été consulté. C'est ça qui est hallucinant. Donc tout ça s'est fait au doigt mouillé, en avançant comme ça. Donc il ne faut pas s'étonner si ça produit très peu de choses. Et donc ce qui nous est annoncé, je n'en attends rien. Voilà, c'est comme ça. Alors maintenant, je reviens au parti, puisque donc l'objet de cette émission,
c'est de voir comment repérer ce qui peut ressortir de choix électoralistes ou ce qui ressort de volonté forte en matière d'environnement.
Voilà, alors ce que l'on oublie aussi... Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les environnementalistes ne voient que les enjeux environnementaux. Mais les électeurs, ce qu'ils voient, eux, c'est qu'ils votent pour des partis. Et que donc lire les programmes, enfin c'est très bien que les programmes soient étudiés et analysés, c'est une chose, mais qui va le faire?
Ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, on est encore sur ce vote sur des partis?
Ah ben partout, à tous les niveaux. Au niveau municipal, on est beaucoup plus sur des personnalités, mais aussi sur des partis, et à plus forte raison au niveau législatif, au niveau présidentiel et au niveau européen. Voilà, il faut ne rien connaître à la sociologie électorale, si je puis me permettre, pour dire que les citoyens vont faire leur choix par rapport au contenu des annonces environnementales des partis, qui vont faire une sorte de bench... Ah, il ne faut pas employer de mots anglais.
Ah non,
de comparaison, etc., entre les partis pour savoir quel est le plus... Non.
Alors peut-être moins les jeunes générations, quand même, Pierre Lascoum.
Je rajoute autre chose, c'est que ceux qui posent problème, on ne va pas faire le catalogue de tous les partis, mais des partis écologistes en France, ils ont eu leur meilleur résultat en 2009, où ils avaient eu 16% des voix. Mais la plupart du temps, ils sont toujours restés, disons, autour de entre 5 et 8%. Il n'y a aucune raison que ça change, de mon point de vue. Enfin, les sondages, aujourd'hui, vont dans ce sens. Pourquoi? C'est parce que les partis écologistes, je dis les, n'ont pas plus de crédibilité que les autres. Leur histoire, la façon dont ils ont fait des alliances ou pas, surtout les luttes internes, à n'en plus finir. Les clivages, quand certains prennent des postes ministériels, vont, disons, à la soupe, alors que d'autres se radicalisent, etc., créent une image extrêmement floue qui est très différente de l'image des... On peut dire Grünen, comme c'est pas
bien
anglais.
Bien sûr,
hein, d'accord.
Allez-y, les Verts en Allemagne.
Des Verts allemands, qui, eux, sont des partis qui ont finalement... Enfin, est un parti, pardon, qui a réussi à intégrer à la fois des positions très à gauche, dans beaucoup de domaines, et aussi des dimensions pragmatiques. Ils ont géré des villes, ils ont géré des landes, enfin ils sont associés, etc. Et ils font des alliances selon les contextes locaux. Les Grünen ont une crédibilité que n'ont absolument pas les Verts. Et donc il ne faut pas s'étonner, si vous voulez, si au bout du compte, les votes restent relativement faibles. Enfin, on verra bien. Voilà.
Valérie Cabanès et après Neil Makarov.
Je suis assez d'accord. Cela étant dit, le dernier sondage qui a été mené sur les thématiques les plus importantes en Europe, hein, pas que les Français...
En matière d'attente.
Pour ces élections européennes, oui. Oui, en matière d'attente. Si je ne me trompe pas, c'est 67% en tête, l'environnement. Alors, ça a un contre-effet négatif, c'est ce que je disais en début d'émission, c'est qu'on a effectivement toutes les listes, même le Rassemblement National, qui posent maintenant l'environnement comme étant au cœur de leur programme. avec une volonté de développer les circuits courts dans un protectionnisme nationaliste. C'est assez hallucinant. Donc c'est compliqué parce que chez les citoyens, il y a donc cette prise de conscience qui commence à véritablement émerger. Alors, et puis il y a cette jeunesse qui, jusqu'à présent, ne se mobilisait pas pour voter. Donc nous, on a un petit peu la même approche que le RAC. À notre affaire à tous, on est en train de mener un sondage sur ces 2 millions de personnes qui ont
donc le RAC, je reprécise, Réseau Action Climat.
Réseau Action Climat, oui. Sur ces plus de 2 millions de personnes qui ont donc soutenu l'idée d'un recours contre l'État français. On est en train de mener un sondage pour comprendre qui ils sont. On sait déjà que c'est majoritairement des jeunes. Et dans le sondage, on leur demande s'ils ont l'intention de voter. Et on a décidé que l'on allait jouer un rôle aussi en amenant de l'information auprès de ces jeunes sur justement le décryptage des programmes européens. Il ne s'agit pas de les influencer, il s'agit juste de leur donner des clés de lecture, ce qu'a déjà fait d'ailleurs certains magazines comme Actu Environnement, qui a décrypté un petit peu les enjeux écologiques posés par les différents partis. Mais je crois qu'on a un rôle, effectivement, en tant qu'ONG, à pousser les jeunes à s'investir au niveau du vote. Et je suis d'accord avec vous, je pense que en ce qui les concerne, le climat, la perte de biodiversité sont vécus comme des menaces directes et donc des enjeux cruciaux.
Et on peut rappeler que vendredi prochain, d'ailleurs, sera une grève mondiale des jeunes pour le climat, donc vendredi 24 mai, et que cette semaine, Angela Merkel a annoncé qu'elle viserait une neutralité carbone en accord avec d'autres pays de l'Europe d'ici 2050, en justement s'appuyant sur les mouvements des jeunes qui la font réfléchir, dit-elle. Neil Makarov.
Vous voyez, ça, c'est vraiment un facteur de changement, en réalité, cette mobilisation de la jeunesse, et pas que des jeunes. Il y a beaucoup de personnes qui sont allées marcher partout en Europe, pas qu'en France, pas qu'en Europe de l'Ouest, mais en Pologne, en République tchèque. Les Européens se mobilisent aujourd'hui pour le climat, pour la transition écologique, parce que il y a derrière le climat et derrière la transition écologique, il y a des vrais problèmes tels que la pollution de l'air, notamment en Europe de l'Est, qui a un vrai problème sanitaire. En Pologne, la pollution de l'air due au charbon, ça tue 19 000 personnes par an prématurément. Donc on voit que là-dessus, il y a un vrai problème sanitaire qui est du coup lié à des enjeux environnementaux. Et aujourd'hui, ça fait partie du paysage politique, ça fait partie du débat politique. Alors, est-ce que cela va se transformer en mobilisation pour le vote? On le verra le 26 mai. En tout cas, je l'espère, car c'est vraiment à l'échelle européenne qu'on peut agir sur ces questions-là. Nous, en effet, en tant qu'ONG, et le Réseau Action Climat, on a publié ce fameux observatoire du coup de nos élus européens pour voir un petit peu ce qu'ont fait les députés, pour faire le bilan de ce qu'ont fait les députés français au Parlement européen. Tous les jeunes peuvent aller se renseigner en tout cas sur le bilan. On a aussi fait le bilan du gouvernement français au niveau européen. Pourquoi ? Parce que quand le gouvernement français, il est à la table des négociations au niveau européen, il a autant de poids que les députés européens et donc ils sont tous les deux co-décisionnaires et donc co-responsables de la politique européenne. Et ça, c'est important de pouvoir les mettre sur le même niveau. Mais cet enjeu de transparence dans cette campagne électorale, d'autant plus au niveau européen, parce que le niveau européen est souvent vu comme un niveau très technique, très éloigné des citoyens, il est important et je pense que c'est en effet le rôle des ONG de pouvoir apporter de la transparence et de pouvoir éclairer, en tout cas rapporter du fait, montrer le factuel aux électeurs avant le 26 mai prochain.
Et votre rôle à tous les trois, je vous remercie beaucoup, on attendra les résultats effectivement dans une semaine. Merci Valérie Cabanet, je rappelle le titre de vos livres, Un nouveau droit pour la terre, paru au Seuil, et puis Homo Natura, paru chez Buchet-Chastel. Pierre Lascoum, Action publique et environnement, paru aux presses universitaires de France dans la collection Que sais-je. Et il y en a d'autres bien sûr qu'on retrouvera sur le site de l'émission. Et puis Neil Makarov, je renvoie bien sûr sur les liens vers le site de Réseau Action Climat et les différents rapports que vous avez mentionnés. Toutes ces informations, bibliographie, la revue de web environnement, les plus, les moins de la semaine, sélectionnées par Ils seront à retrouver sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, téléchargement, réécoute à votre disposition comme d'habitude. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter ou sur notre page Facebook. Dimanche prochain, ce sont donc les Indiens du Brésil de Bolsonaro qui seront au cœur de nos discussions avec notre partenaire, le journal Le Monde. Et dans un instant, vous restez bien sur France Culture, c'est la suite de vos programmes avec Être et Savoir et Louise Touret.